Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
À coup de menton, à coup de trompette, puisque c'est le jour de la victoire en Russie après l'investiture lundi de Vladimir Poutine qui repart donc pour un quatrième mandat. Quatrième mandat qui commence, lui, avec le retrait américain de l'accord sur le nucléaire, vous l'avez entendu, et des tensions extrêmes donc entre ses partenaires, Iran et Israël. Bonjour Jean-Sylvestre Mongrenier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, chercheur à l'Institut français de géopolitique et l'Institut Thomas More. Alors, Benjamin Netanyahou sera le seul chef de gouvernement présent au défilé, hein, pour des pourparlers, comme il a dit, avec le président russe, au sujet donc de l'Iran, partenaire en Syrie, ou collègue, hein, comme l'appelle le ministère des Affaires étrangères, exercice délicat, donc qui témoigne aussi de la place prise par la Russie sur la scène internationale, ici pivot, voire peut-être médiatrice. En tout cas, c'est le résultat d'une volonté clairement énoncé hein, depuis longtemps par Vladimir Poutine hein, de rétablir la Russie par une politique à long terme, mais cette montée en puissance a un prix, une stratégie de la tension, toujours dans les bornes du droit international qui n'évite pas évidemment les sanctions économiques. Alors aujourd'hui, la diplomatie russe a deux faces, puisque d'un côté, on pourrait dire qu'elle a les mains libres pour rechercher ou choyer de nouveaux partenaires, notamment en Afrique, et puis de l'autre, la nécessité d'équilibrer des relations parfois explosives, donc des partenaires embarrassants. D'ailleurs, Jean-Sylvestre Mongrenier, la Russie a utilisé un ton assez modéré là, pour qualifier la décision de Donald Trump. Elle se contente d'être profondément déçue.
Oui, bah c'est bel et bien une alliance avec l'Iran. Ben, je ne sais pas pourquoi on a autant de pudeur à parler d'alliance. Hein. Il y avait un partenariat géopolitique fort qui a été noué dans les années 90, hein, qui s'inscrivait dans une logique d'opposition à l'Occident déjà à cette époque. Là, c'est la doctrine Primakov. Et puis, peu à peu, ce partenariat géopolitique étroit, il est devenu bel et bien une alliance. Hein. Il faut rappeler qu'au moment même où on négociait l'accord sur le nucléaire en juillet 2015, hein, vous aviez donc hein, le général en chef hein, de la force Al-Qaïda, qui est la pointe avancée des Pasdaran, qui se rendait à Moscou et qui négociait avec les Russes une intervention armée sur le théâtre syrien, donc est devenue effective en septembre, à partir de septembre 2015. Donc ça, si ça n'est pas une alliance, je ne sais pas ben, quelle définition il faut donner de ce terme. Donc à partir de là, ça relativise tout ce qui est intérêt commun, connexion avec Israël, là, qui quelque part est dépité, compté ben, sur la Russie pour contenir l'Iran et puis qui s'aperçoit que c'est de moins en moins le cas, hein, que la Russie le veuille ou ne le veuille pas, d'ailleurs. Hein, on n'est pas sûr qu'elle le puisse, hein, de toute façon. Hein, et puis alors, a fortiori, avec les États-Unis et avec l'Occident, ça va plutôt dans le sens d'un durcissement. Bah, ce théâtre syro-irakien est en fait le théâtre d'une nouvelle guerre froide entre la Russie et l'Occident.
Donc de ces pourparlers, là, comme le disait Benjamin Netanyahou, qui vont commencer aujourd'hui avec Vladimir Poutine, il ne faudrait pas attendre grand-chose, ni, je le disais, d'une éventuelle médiation russe, alors ?
Non, parce que d'abord, la Russie n'est pas une puissance arbitrale. Hein. On a un axe Moscou-Damas-Téhéran ben, sur le terrain. On a donc un retour en force de la Russie qui s'est fait au Proche-Orient, au Moyen-Orient, en alliance étroite avec l'Iran. Donc on a vu se mettre en place un front russe aux chiites. Hein. Et donc je pense que du point de vue israélien, il s'agit avant tout de maintenir malgré tout donc le lien avec la Russie pour essayer de limiter les dommages, hein, de maintenir les accords de déconfliction. Enfin, on a vu depuis début 2018 des tensions croissantes et il refuse la Russie de jouer le rôle finalement de contrepoids de l'Iran bah, sur le terrain. Et donc l'Iran sur le terrain donc cherche à s'enraciner militairement en Syrie, à prendre position sur les frontières israéliennes, à se projeter stratégiquement vers la Méditerranée orientale. Et donc j'insiste sur le fait que ça se fait en alliance avec la Russie, c'est pas malgré la Russie.
Et une Russie qui a réussi à marquer des points, ou en tout cas à se faire écouter, hein, c'était les mots de Vladimir Poutine lors de son discours à la Douma, face à l'Ouest notamment. Et c'était aussi ce que disait Angelino Alfano, la ministre des Affaires étrangères italien, l'année dernière au G7. On ne parle pas avec la Russie à coup d'ultimatum. Est-ce que ça vous semble aujourd'hui une donnée acquise pour la Russie, ceci, si on se réfère par exemple à l'épisode des frappes occidentales en Syrie tout dernièrement ?
Bah déjà, je suis assez réticent à ce terme d'écouter. On a l'impression bah, que finalement, la diplomatie, ça serait un exercice de psychothérapie. On a des relations diplomatiques continues avec la Russie. La Russie est un sujet politique autonome. Alors maintenant, est-ce qu'elle est véritablement puissante ? Elle a démontré sa capacité à intervenir donc au-delà de l'étranger proche, alors qu'il y avait beaucoup d'experts militaires qui pensaient que la Russie n'avait pas véritablement cette capacité. Mais cela dit, on est quand même très loin de la Pax Putina qu'on nous vante hein, depuis des mois et des mois. Il suffit de regarder regarder la situation sur le théâtre syrien. Ça devient de plus en plus enchevêtré, ça devient de plus en plus conflictuel. On est au bord d'une guerre entre l'Iran et Israël. Il y a la Turquie qui joue sa propre partie. Dans le cadre d'une alliance, cette fois-ci purement tactique avec la Russie, ben, c'est pas une alliance de niveau stratégique, hein, comme l'est finalement l'axe Moscou-Téhéran. Et donc, par rapport au récit qui avait été ficelé, on intervient quand le 11, c'est les Russes. On modifie le rapport des forces, on réunit tout le monde autour d'une table, et puis voilà, vous avez un accord politique, diplomatique qui sort de tout ça. On est quand même bientôt 3 ans, 2 ans et demi après l'intervention russe, et ça n'en prend pas le chemin. Tout ce qu'on appelle le processus d'Astana, avec des réunions à Sochi, d'ailleurs, plutôt qu'à Astana, à chaque fois, finalement, les réunions sont écourtées, ça se termine par un communiqué qui rappelle la nécessité de consolider les cessez-le-feu, mais on ne voit pas encore un grand plan de paix qui serait parrainé par la Russie.
On ne peut pas dire que ce soit effectivement une diplomatie qui obtienne des résultats de ce point de vue-là, mais comme vous l'avez précisé, c'est effectivement une vision de la politique étrangère à long terme, avec cette capacité de projection, pas seulement militaire, mais aussi diplomatique en un sens. Alors, il y a eu une tournée de Sergueï Lavrov en Asie du Sud-Est, là également un certain retour de la Russie en Afrique, mais surtout le plus intéressant aujourd'hui, c'est le retour de la Russie en République centrafricaine, dont elle se charge, pour ainsi dire, de la sécurité, de négocier des accords et des accords miniers aussi.
Oui, enfin bon, c'est quand même beaucoup dire parce qu'il y a la MINUSCA sur place, hein, donc il y a des forces de l'ONU, il y a aussi une petite mission de l'Union européenne qui vise à former les armées centrafricaines. En fait, il y a eu effectivement une rencontre entre le président centrafricain et puis Sergueï Lavrov à Sochi en novembre 2017, à la suite de quoi Moscou a demandé donc au Conseil de sécurité une exception à l'embargo sur les armes pour pouvoir livrer des armes. Ça, c'était en décembre dernier, ça a été fait en janvier 2017. 2018, et le fait est qu'ils ont ouvert une brèche, se sont précipités dans cette brèche, et on a sur place des conseillers russes, alors on ne sait pas bien si ce sont des militaires ou alors des mercenaires du groupe Wagner, ils sont environ 175, ils ne font pas uniquement de la formation, on les a vus donc à faire éruption dans la garde présidentielle, voire mener des opérations en brousse. Bon, alors c'est une opération qui reste limitée, mais cela dit, ce qui est intéressant, c'est de voir que la République centrafricaine se trouve sur l'axe qui va du Soudan à l'Angola. Et donc au Soudan aussi, il y a une diplomatie russe qui est active. Et le Soudan, d'ailleurs, a proposé donc l'ouverture d'une base navale sur la mer Rouge, donc qui serait ouverte aux Russes. En Angola, il y a une présence russe continue, qui finalement date effectivement de la période Brejnev. Et puis il y a aussi la tournée de Lavrov, donc de mars 2018, qui, outre le Soudan, l'Angola, a concerné également une bonne partie de l'Afrique australe. Et donc là, alors, il n'est pas allé en Afrique du Sud, mais il y est allé auparavant et puis il y reviendra certainement par la suite. Mais on l'a vu au Mozambique, on l'a vu en Namibie, on l'a vu au Zimbabwe. Et donc là, il y a des accords de défense, il y a des livraisons d'armes, il y a aussi des accords sur l'énergie, sur les minerais. Alors bon, c'est là encore, c'est pas quelque chose de massif, d'important, si on raisonne en termes quantitatifs. Mais il y a bel et bien la volonté de la Russie de se replacer finalement sur le continent africain et de se poser à nouveau comme puissance mondiale, globale, envers et contre l'Occident, comme à l'époque de l'URSS de Brejnev. Brejnev, on l'appelait Brejnev l'Africain, puisqu'il y avait eu une percée dans les années 70 au moment de la décolonisation portugaise en Angola et au Mozambique.
Bon, on verra si on dit Poutine l'Africain. Mais dans ce contexte, juste un mot pour la RCA encore. Est-ce que, compte tenu quand même de l'expérience qu'a aujourd'hui la Russie, on pourrait dire, de soutenir un peu à bout de bras des régimes chancelants, est-ce qu'il n'y a pas une volonté avec ce pas de soutenir coûte que coûte le régime de Faustin Archange Touadéra, ou en tout cas son mandat?
Oui, certainement. Si on les voit prendre en charge la garde rapprochée du président, et donc vous aviez d'autres soldats africains du Rwanda, je crois, qui étaient en charge de cette garde présidentielle, là, ils ont été reportés sur les cercles extérieurs. Il y a certainement cette volonté. Et puis on sait que Prigozhine, l'oligarque proche de Poutine, qui finance ce type d'opération, qui serait le financier du groupe Wagner, a aussi comme objectif d'exporter en Afrique des conseillers politiques, des politologues, qui serait chargé donc de soutenir un certain nombre d'hommes forts, de prendre le contrôle des processus électoraux. Donc il y a bien une démarche d'ensemble. C'est pas uniquement de l'affairisme, de l'utilitarisme, essayer de courir après quelques diamants ou quelques quantités d'or ou d'uranium.
Bon, et puis dernière chose, Emmanuel Macron a dit qu'il avait une discussion historique à mener avec Vladimir Poutine. Historique, qu'est-ce que ça veut dire selon vous?
Bah, historique, je pense que c'est un petit peu trop emphatique, là, en l'occurrence. La politique étrangère qui est menée par Emmanuel Macron est ferme, hein, et donc il n'a pas du tout transigé sur l'Ukraine, il ne transige pas sur la Syrie. En même temps, bah, eh bien, il y a la volonté de conserver, maintenir le contact avec la Russie. Alors peut-être qu'il est persuadé au fond de lui-même qu'en dernière analyse, la Russie est européenne et devra un jour ou l'autre à se raccrocher à un ensemble européen, euro-atlantique, mais il faut certainement pas attendre de cette réunion une sorte de bascule générale. Il s'agit plus de maintenir des ponts en dépit de cette nouvelle guerre froide.
Oui, bien, à suivre en tout cas. Merci beaucoup Jean-Sylvestre Mongrenier, chercheur à l'Institut de français géopolitique et l'Institut Thomas More. Bien sûr, informations et vidéos sur la page internet et le site de France Culture. Et puis demain, nous parlerons, nous espérons, des ponts.